Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En 2015, les astronautes de la Station Spatiale Internationale dégustaient la première laitue cultivée dans l'espace. Depuis, radis, blé et même piment ont pris racine à plus de 400 000 km d'altitude, un luxe quand la majorité de la nourriture disponible à bord est irradiée, lyophilisée ou en conserve. Mais pas de quoi se rassasier non plus, surtout dans la perspective de futures missions sur la Lune. Alors comment assurer à ces astronautes leur ration de protéines, notamment animales, de vitamines et d'oméga 3 ? Grâce aux poissons. Sauf qu'à moins d'une pêche miraculeuse, vous conviendrez qu'il y a peu de chances d'en apercevoir la queue dans la mer de la sérénité. C'est pour répondre à cette problématique lunaire que notre invité a sorti ses mains de l'eau pour les tendre vers le ciel. Il est biologiste marin au laboratoire Ifremer L3AS, donc laboratoire adaptation et adaptabilité des animaux et des systèmes, et au laboratoire Marbec. Et ce qu'il propose relève presque de la magie, puisqu'il s'agit d'envoyer des œufs de poissons dans l'espace pour les élever, peut-être même sur la Lune. Avec nous dans le studio, Cyril Prisbilla. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Alors à mes côtés pour mener cette interview à l'Imperio.
Bonjour.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57.
Alors Cyril Prisbilla, nous allons parler d'espace ce matin, mais comme je l'ai dit dans le lancement, vous êtes biologiste marin et votre spécialité à vous, c'est l'aquaculture multitrophique intégrée, l'AMTI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, bien sûr. C'est un concept en fait qui est dans la feuille de route de l'UMR Marbec, qui vise à trouver des moyens pour produire une aquaculture durable sur Terre. Donc un système aquacole produit des molécules qui sont dissoutes dans l'eau et produit aussi des fesses ou enfin des déjections de poissons. Et le but, c'est de faire des systèmes qui récupèrent tous ces éléments-là pour produire une autre source biologique aquatique et marine, dans mon cas, dans l'idée de faire une production animale qui ne produit aucun déchet.
Alors c'est un système qui intéresse beaucoup la FAO, la Food and Agriculture Organization. Qu'est-ce que ça pourrait permettre cette aquaculture multitrophique intégrée ? C'est pas facile à dire.
Alors en fait, ça intéresse à la fois la FAO et aussi les pays européens, puisqu'il y a une composante préservation de la biodiversité, c'est-à-dire produire à la fois un aliment et en même temps conserver la biodiversité terrestre. Alors la FAO est intéressée parce que là où aujourd'hui on fait un seul organisme aquatique, le poisson. Demain, on va pouvoir, par exemple, faire des mollusques associés au poisson. Donc, en fait, on multiplie par deux, si je peux dire, la production de protéines et de lipides d'origine animale. Si je prends un exemple, les poissons produisent des matières dissoutes dans l'eau qui vont être le fertilisant pour des microalgues. Et ces microalgues, après, vont être la source alimentaire d'huîtres ou de moules, par exemple, mais d'autres choses. Hein. Et donc, là où on faisait que du poisson, on va pouvoir faire d'autres choses. Donc la FAO est intéressée parce que dans les pays qui ont un besoin alimentaire autonome un peu plus pressant que les pays européens ou occidentaux qui ont les moyens d'acheter des choses importées, ça peut permettre d'avoir une autonomie alimentaire qui permettrait de maintenir les populations à un niveau de nutrition acceptable.
Et c'est d'autant plus utile, sans doute, dans des conditions un peu extrêmes. Donc ça peut être sur Terre, mais ça peut être, on va en parler aujourd'hui, donc dans l'espace. Alors l'espace, vous connaissez parce que vous êtes titulaire d'un DU mécanique céleste. Vous êtes diplômé de l'Université Spatiale Internationale et vous avez une nouvelle corde à votre arc depuis la semaine dernière, c'est ça ?
Depuis le 8 décembre.
D'accord.
Oui, j'ai soutenu ma thèse à l'Université de Montpellier, à l'école doctorale Gaïa, sur les systèmes multitrophiques intégrés. Et une partie de ma thèse, c'était les systèmes extrêmes, dont la Lune. Voilà, donc c'est tout frais.
Alors comment elle vous est venue, cette idée d'utiliser la MTI dans un contexte spatial ?
Eh bien, disons que l'idée vient de mes travaux de ces 10 dernières années, on va dire un peu plus, ces 13 dernières années, où finalement l'ambition terrestre, qui est de préserver la biodiversité en évitant d'émettre des particules ou des molécules dans l'environnement, ça ressemblait à un circuit complètement bouclé. Quand j'ai fait mes études donc, au DU à l'Observatoire de Paris, DU de mécanique céleste, j'ai côtoyé des personnes qui commençaient à parler de boucles closes dans l'espace. Et aujourd'hui, les boucles closes dans l'espace, c'est essentiellement des futures serres, c'est-à-dire que c'est des productions de tomates, de pommes de terre, je ne sais pas si vous avez vu Seul sur Mars, le film, c'est ça en fait. Et donc il manquait cette fibre animale, il manquait les acides aminés d'origine animale, et j'ai proposé tout simplement l'idée en disant « nous sur Terre, on travaille sur ça déjà ». Et l'idée a fait son chemin et a commencé à séduire le CNES, l'Agence spatiale française. Et petit à petit, l'ESA, et puis c'est en train de prendre du volume. Mais avant ça, il faut faire la preuve de concept au sol, savoir si l'organisme peut endurer un voyage spatial, par exemple.
Et c'est ce qu'on va voir. Mais par exemple, dans quel contexte on pourrait utiliser ça ? C'est dans le cadre de missions, réellement de missions sur la Lune, par exemple ?
L'objectif donc du programme LunarAge, c'est vraiment de commencer à réfléchir à un système sur la Lune. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus large, le système. Il peut être envisagé dans un navire, dans un vaisseau spatial qui voyage longtemps, ou sur Mars, mais c'est encore très loin. C'est-à-dire que la Lune... À notre échelle actuelle, c'est accessible encore. C'est un projet qui est jouable, je peux dire. Alors que Mars, c'est un peu plus loin. Mais ce concept-là, il peut être dupliqué après partout sur l'espace, mais aussi sur Terre, dans un désert ou dans un pays qui est isolé géopolitiquement ou géographiquement, dans un atoll du Pacifique qui est loin de tout. Enfin, voilà, en fait, on parle vraiment d'environnement extrême. Et la Lune en fait partie. C'est un des environnements extrêmes.
Certainement un des plus extrêmes, des environnements extrêmes.
Et question bête d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi le poisson comme source de protéines ? Et parmi les poissons, pourquoi celui-là ? C'est le bar Dicentrarchus labrax, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors en fait, il faut savoir que ce projet, c'est un projet de concept. Et dans ce projet de concept, il fallait mettre un organisme. Or, cet organisme-là, ce poisson-là, le bar, je le connais bien. Donc, le laboratoire dans lequel je travaille, je le connais bien. On peut imaginer un autre poisson, on peut imaginer un autre organisme aquatique. Ce qu'il faut retenir, c'est l'aquaculture spatiale. C'est une boucle fermée d'eau dans laquelle on élève quelque chose. Donc, ce poisson-là, je l'étudie depuis, à ma manière, je l'étudie depuis 23 ans. Donc, c'était très simple de prendre un organisme que je connaissais déjà très bien, quoi.
Et vous parlez de boucle fermée d'eau. Comment est-ce qu'on gère sur la Lune ce problème justement de la ressource en eau ?
Alors, c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement l'aquaculture spatiale. Ça concerne aussi la présence humaine. C'est-à-dire que nous sommes des organismes aquatiques. C'est contre-intuitif, mais en fait, si on prend le pourcentage d'eau qu'on a dans notre corps, c'est le même que pour un poisson, par exemple. Mmh. On a besoin de boire. Sans eau, on dépérit. Donc, si on considère ça, ce sujet-là est lié à la présence humaine. S'il n'y a pas de présence humaine, bien sûr, il n'y aura pas d'aquaculture spatiale. Par contre, s'il y a une présence humaine, ça veut dire que localement, on a trouvé une source d'eau. C'est complètement aberrant de penser qu'on va faire des cargos qui vont transporter uniquement de l'eau. C'est pas jouable. D'ailleurs, c'est pas l'idée des agences spatiales. Et sur la Lune, il se trouve qu'il y a des cratères qui sont dans les pôles sud et nord, des cratères qui ne voient jamais la lumière du soleil, ce qui veut dire qu'il y a de la glace d'eau qui s'est stockée pendant plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est l'idée des agences spatiales, c'est de fondre cette glace à la fois pour faire de l'eau potable, et puis l'utiliser dans la base, mais aussi une partie de cette eau pour l'aquaculture spatiale. Alors l'aquaculture spatiale, c'est un circuit fermé, il n'y aura pas beaucoup d'eau. Une fois qu'on a rempli les bassins, il faut juste rajouter quelques unités pour essayer de le maintenir en volume. Alors si je peux continuer sur cette partie de l'eau sur la Lune, en fait on ne connaît pas la qualité de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de sondes qui sont revenues avec un carottage de cette glace-là. Donc on ne sait pas si c'est de l'eau minéralisée, auquel cas c'est les poissons marins qui sont candidats, si c'est de l'eau douce, auquel cas ça peut être la truite par exemple, qui serait candidate. Et ça va être déterminant. Mais la diversité de cultures aquatiques terrestres fait qu'il y aura forcément un candidat aquacole qui sera compatible avec la qualité de l'eau.
Et comment on peut imaginer récupérer cette carotte ?
Alors, dans les 10 prochaines années, je crois qu'il y a 8 missions d'agences, États-Unis, Europe, Europe, j'en suis pas sûr, mais États-Unis, c'est sûr, Inde, qui vont aller dans ces cratères-là pour amener... Donc l'information, elle va être disponible dans la décennie, là.
Alors, donc, l'idée dans votre projet, ce n'est pas d'envoyer donc, des poissons à taille adulte, mais c'est d'envoyer des œufs de poisson. Donc, pour cela, vous travaillez sur le volet expérimental avec le Centre Spatial Universitaire de Montpellier et vous utilisez un de leurs petits CubeSats dont on a déjà parlé dans l'émission. On avait fait des reportages là-bas. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça se présente ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Centre Spatial Universitaire de Montpellier, c'est le partenaire historique. C'est les premières personnes sur Montpellier à qui j'ai parlé du projet, qui m'ont dit ben, « on y va et on peut vous aider en fait, à développer cette idée ». Donc au départ, il fallait se demander dans quel volume on allait faire les expérimentations. Et il se trouve que le CubeSat, c'est un, on va dire, c'est un cube en métal qui fait 10 cm sur 10 cm, 10 cm. Et il se trouve que dans le spatial, c'est une unité commune. Par exemple, quand on réfléchit à un volume sur l'ISS, on parle en nombre de CubeSats, donc en nombre de cubes de 10 x 10 x 10. Et donc nous, ça nous permettait aussi donc, du coup, de réfléchir à un volume expérimental. Il fallait que ce volume il rentre dans ce CubeSat. Donc l'IFREMER et notamment les agents logistiques de l'IFREMER ont créé un bassin expérimental et nous avons fait nos premières expérimentations dans 230 millilitres. Alors 230 millilitres, ça parle peut-être pas comme ça, mais en fait, c'est votre verre d'eau quand vous êtes à table, c'est le volume de votre verre d'eau. Donc c'est très petit et c'est une charge qui est très petite à transporter. Donc dans le spatial, ce qui coûte cher, c'est la charge. Hein. Donc on peut imaginer avoir ça dans un petit coin. Hein. D'ailleurs, la première fois que j'en ai parlé à l'Agence Spatiale Européenne, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, presque l'astronaute, il pourrait le prendre et le mettre sous son siège. Donc voilà, c'est un tout petit volume. Et dedans, on met 200 œufs, donc c'est 200 futurs poissons.
Et alors ces futurs poissons qu'on ambitionne d'envoyer sur la Lune, vous pouvez nous parler un petit peu du trajet ? Ça prend combien de temps pour les autres poissons d'aller de la Terre vers la Lune et du coup, comment ils le supporteraient ?
Alors, il faut savoir que, par exemple, pour aller sur la Lune, c'est entre 4 et 8 jours. Ça va dépendre, en fait, du lanceur. Ça va dépendre de la puissance du moteur. Ça va dépendre du type de mission. Par exemple, pour les missions humaines, c'est 4 jours. Les missions Apollo, ça a été 4 jours. Et ce qu'ils prévoient pour Artemis, c'est dans ces eaux-là, peut-être un peu moins. Pour les missions avec des robots, c'est un peu plus long parce que ça coûte moins cher, bien sûr. Le moteur, il est moins, enfin, la propulsion est moins forte. Donc, on va dire que c'est entre 4 et 8 jours. Ce voyage-là, il va être défini par sa trajectoire. C'est-à-dire que si c'est un moteur puissant, eh bien, ça sera comme une autoroute. Ils vont sortir de Terre et aller directement sur la Lune. Si c'est un moteur qui est moins puissant, on va utiliser l'attraction de la Terre et la mission va faire plusieurs fois le tour de la Terre comme un lance-pierre, en fait, et qui va après lâcher le véhicule spatial vers la Lune. Donc, on voit que déjà en durée, c'est très variable. Donc, ce n'est pas les biologistes qui ont ça en main. Et ce qui va aussi être prépondérant, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a une ceinture de particules chargées qui sont essentiellement des protons issus du Soleil qui nous protègent, hein, qui s'appelle la ceinture de Van Allen. Et cette ceinture-là, elle est pas de la même épaisseur partout. Donc, ça va dépendre où est-ce que le vaisseau va passer. Voilà. Donc, les expérimentateurs sont tributaires de la trajectoire de l'agence qui va lancer la mission.
Alors, un des objectifs de vos études, c'est bien sûr de voir comment ces œufs vont supporter cette traversée. Dans une précédente étude, vous avez d'abord simulé les conditions de décollage. Donc, vous vous êtes calé sur Soyouz, je crois, le modèle, et vous avez soumis pendant plus de 10 minutes vos œufs de poisson aux vibrations. Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on a soumis, pourquoi 10 minutes ? On peut se poser la question. Il y a des gens qui travaillent sur plus longtemps, parce que 10 minutes, c'est le temps qu'il faut à un véhicule spatial pour atteindre l'orbite basse terrestre. Donc ça ne servait à rien de soumettre les œufs à 20 ou 30 minutes. De toute façon, ce n'était pas le cas réel. Ce qu'on a regardé, la première chose, on sait très bien que sur Terre, dans un environnement qui est, on va dire, agressif, sur Terre, les œufs arrêtent leur embryogenèse, c'est-à-dire que l'œuf, très clairement, meurt quand, par exemple, il y a une qualité d'eau qui n'est pas bonne ou un stress. Et donc, grosso modo, on peut dire que c'est la nature qui décide d'arrêter le processus si l'environnement d'éclosion n'est pas bon. Donc ça, c'est un fait. Donc on s'est dit, ben ça, c'est un critère qui est intéressant. Et donc, on a regardé le taux d'éclosion des 200 petits embryons qu'on avait dans la simulation. Et on a suivi ça par rapport à des frères et sœurs. Hein. On prend des poissons, les poissons contrôle sont des frères et sœurs, mais qui ne sont pas dans le simulateur, en fait. Et on a comparé les taux d'éclosion. Et là, on a remarqué qu'il n'y avait pas de différence significative sur le taux d'éclosion. Donc, c'était un premier paramètre intéressant en se disant, ben, finalement, cette vibration-là, elle ne met pas en péril ses œufs. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette manip ? Enfin, nous avons fait cette manip, c'est que les Russes dans les années 80 avaient envoyé des œufs de caille toujours dans l'esprit de fournir de l'aliment aux futures générations de cosmonautes. Et donc, une fois arrivés sur la station orbitale, les œufs, quand ils avaient éclos, n'avaient pas de tête. Donc, ça veut dire que quelque chose s'était passé entre la fécondation des œufs à terre et l'arrivée en orbite. Et donc, la thèse, c'était que peut-être les vibrations ou l'hypergravité, on y reviendra tout à l'heure peut-être, avaient joué un jeu dans l'embryogenèse.
Alors justement, l'hypergravité, on va y venir maintenant. Vous avez, vous, mis dans une autre étude ces œufs en condition d'hypergravité et de microgravité. Déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ces deux termes? Ça correspond à quoi comme condition?
Alors, nous, on est à une gravité de 1G, tous dans le studio et puis les auditeurs aussi. 1G, c'est la gravité normale, l'attraction terrestre. Quand une fusée décolle, il y a 5G. Ces 5G-là, on passe de 1 à 5G. Donc c'est là où on voit dans les films où les gens sont écrasés sur leur siège. Donc on peut se poser la question aussi, lorsqu'il y a une embryogenèse, il y a un développement cellulaire, est-ce que ce développement cellulaire, il n'est pas aussi contraint par le 5G? Pareil, on l'a mis sur 10 minutes parce que c'est 5G pendant 10 minutes. Une fois qu'on est en orbite, voilà, c'était pas la peine. Donc ça, c'est l'hypergravité. Hein, c'est un mot peut-être un peu barbare, mais grosso modo, on multiplie par 5 la gravité terrestre. Et la microgravité, c'est l'absence, la réduction de cette attraction terrestre jusqu'à ne plus en avoir.
Et alors, comment vous avez fait au niveau expérimental, vous, pour reproduire ces conditions d'hypergravité et de microgravité sur Terre?
Alors, on a été financé par l'Agence spatiale européenne qui nous a mis à disposition un laboratoire sur lequel il y a une centrifugeuse aquatique, donc spécifique pour organismes aquatiques. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui était utilisé pour les recherches sur les microalgues, par exemple dans l'espace ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une centrifugeuse, tout simplement. Hein. Et puis, pour la microgravité, c'est un appareil qui tourne dans tous les sens. Je pense que tout le monde a vu des images d'astronautes qui ont la tête en l'air dans un siège et qui n'arrêtent pas de tourner en même temps que la centrifugation. Mais voilà, l'idée, c'est d'inverser le vecteur de gravité, de l'inverser subitement dans toutes les positions. Et au bout de quelques minutes, le centre de la machine qui tourne dans tous les sens est dans le vide. Donc, on n'est pas dans une absence de gravité. Il en reste toujours un petit peu, en fait, hein, sur Terre. C'est pour ça qu'une expérimentation en mission réelle nous permettra d'avoir une vraie microgravité. C'est le seul moyen qu'on a, le plus proche, de faire une simulation à Terre.
Alors, quels sont les paramètres que vous avez surveillés justement chez les autres poissons? Qu'est-ce qui vous intéressait plus particulièrement?
Alors, on s'était dit, suite à la manip des vibrations, on s'était dit, c'est intéressant de continuer à regarder le taux d'éclosion, puisqu'on sait que s'il y a un problème environnemental, ça va s'arrêter. Donc, on a regardé en premier lieu le taux d'éclosion, et puis on s'est dit, on va aller plus loin. On va se demander, OK, il y a l'éclosion, si elle est bonne, est-ce que les poissons ne sont pas stressés en définitive? Donc, on a regardé des protéines de stress. Et puis on s'est dit, on a eu l'opportunité de mettre en place un système de monitoring d'oxygène, de consommation d'oxygène pendant la microgravité. Donc on a regardé aussi des courbes d'oxygène. Et puis on s'est posé la question de se dire, OK, s'il y a la bonne éclosion et qu'ils ne sont pas stressés, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un paramètre, par exemple, de mise en place de l'immunologie qui va poser un souci? Donc on a commencé à regarder quelques protéines de mise en place d'immunologie du poisson, notamment dans sa phase précoce et la phase innée, en fait, de l'immunologie.
Alors, vous avez remarqué dans cette étude que sous microgravité, le développement embryonnaire est plus rapide et que les œufs éclosent plus tôt. Est-ce que vous savez pourquoi?
Alors, c'est une observation qui est à relier avec ce qui s'est passé dans les années 90 dans des missions, à l'époque c'était la navette spatiale Columbia, je crois, dans lequel ils avaient mis des œufs de zébrafiche, ouais, qui est un poisson modèle, hein, un tout petit poisson. C'est pas un poisson d'aquaculture. La différence, c'est que avec l'unérage, c'est que nous on travaille sur un poisson d'aquaculture qui va grandir. Hein. Donc ils avaient déjà observé ça sur des petits poissons, donc une éclosion avant la date modélisée. Nous, on l'a remarqué 6 heures avant. Hein, donc c'est pas anodin. Hein,
6 heures avant sur un processus qui dure combien de temps?
Sur un processus qui dure entre 90 et une centaine d'heures.
D'accord. Hein,
voilà. Donc en gros, on peut dire 6 à 10%, quoi, hein, grosso modo. Et donc, pour l'instant, mis à part un signal extérieur de l'environnement, qui serait la microgravité du coup, on n'a pas de solution sur ça. Donc je pense que mes collègues aussi n'ont pas de piste. C'est quelque chose qu'il faut fouiller. Pourquoi? On ne sait pas. Donc ça fait partie des données d'expérience qui suscitent d'autres expériences pour comprendre.
Et cette accélération de ce processus-là, vous ne l'avez pas constaté dans d'autres processus métaboliques, c'est spécifique à l'éclosion?
Oui. Oui, c'est spécifique à cet environnement-là. Oui, on l'a pas observé. On l'a peut-être observé dans des changements de qualité d'eau en aquaculture, mais pas autant, quoi. Pas avec ce pourcentage. Quoi.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc du système immunitaire. Vos expériences, elles montrent aussi que les protéines impliquées dans le système immunitaire inné sont bien exprimées sous une gravité altérée. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Alors, on a des gènes qui peuvent exprimer des protéines qui vont être actrices dans plusieurs domaines. Par exemple, l'immunologie, mais aussi la croissance, le stress, on en a parlé. Donc en fait, on en a ciblé trois, parce qu'on ne savait pas déjà si on allait pouvoir faire ces mesures-là sur des stades super précoces, parce qu'en fait, on a prélevé les poissons 4 heures après leur éclosion en microgravité. Donc on les a prélevés juste quand on a arrêté la microgravité. Donc on ne savait pas déjà si on allait avoir une réponse. Et malgré tout, les protéines ont des noms... de l'espace, on peut dire.
C'est ça.
Donc je vais pas les citer, mais enfin, on a observé la mise en place, mais on n'a pas observé en fait la mise en place totale. Donc ça, c'est encore un domaine dans lequel il y a un morceau du rideau qui n'a pas été levé. Par contre, pour le stress, là c'est clair, à la fois sur un aspect zootechnique que sur un aspect transcriptomique.
Et est-ce que ces poissons, vous les avez suivis après pendant toute leur vie pour voir s'il y avait des conséquences ensuite?
Alors ça, c'est fait partie de la deuxième phase. La deuxième phase, c'est de justement garder ces poissons le plus longtemps possible, puisqu'on n'est pas encore à la première alimentation. L'alimentation dans ce poisson-là, ça varie selon les espèces, elle s'effectue quand la bouche est ouverte. Or, la bouche s'ouvre entre 4 et 5 jours après l'éclosion. Donc là, 4 heures après, quand on a fait les prélèvements, on voit bien que c'est, voilà, y a encore un stade de vie. Et à partir du moment où ils vont commencer à manger, là, ça va être encore un autre domaine. Donc l'idée, oui, c'est de pousser ces poissons qui ont été dans un environnement contraint, on va dire, ou différent pendant l'embryogenèse, pour voir si finalement ils ont le même type d'immunologie, s'ils grandissent. Hein. Peut-être qu'il y a l'expression d'une protéine de croissance qui va limiter leur croissance. Enfin voilà, tout ça, c'est des projets qui sont à l'avenir, quoi.
Et justement, à l'avenir, vous dites aussi en conclusion de votre article qu'il y a d'autres expériences qui sont nécessaires. À part celle-là, qu'est-ce que vous devez vérifier encore?
Oui, alors là, si grosso modo, on serait en orbite, là, hein, en simulation terrestre. Hein, on a décollé, il y a eu les vibrations, l'hypergravité, on serait en orbite. Ce qui va manquer, c'est le voyage de la Terre à la Lune. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, la mission va traverser des fortes zones de radiation. Et dans ces radiations, il y a notamment les neutrons, les protons qui vont être exprimés à l'intérieur du véhicule spatial. Donc le neutron fait partie des particules qui sont le plus délétères pour les organismes, hein, que ce soit humains ou poissons. Mais le poisson a un avantage, c'est qu'il est dans l'eau et que l'eau est un bouclier, hein, pour ces particules-là. En gros, pour faire une image, si je préférais être un poisson en mission plutôt que l'astronaute qui est à côté du poisson, hein, parce que lui n'est pas dans l'eau, il n'a pas ce type de bouclier là. D'ailleurs, la NASA est en train de monter des expérimentations sur des jaquettes qui se rempliraient d'eau en cas de trop forte exposition pour les humains. Donc il y a tout ça à regarder sur la partie neutrons et protons, sachant qu'aujourd'hui la science ne sait pas simuler l'environnement radiatif de l'espace. On sait simuler une particule après l'autre, mais on ne sait pas toutes les faire en même temps. D'où l'intérêt de faire une mission réelle pour étudier tout ça.
Alors vous venez de parler de la NASA, vous avez réalisé presque un rêve de gosse l'année dernière, donc vous avez été invité par la NASA pour présenter vos travaux. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé alors?
Alors j'ai été invité par la NASA et par l'Université Sud Floride. Et donc, pendant 2 mois, j'ai intégré un laboratoire qui travaille sur le traitement de l'eau. Ça tombe bien parce que moi aussi, je travaille sur ça. Mais il travaille plutôt sur le traitement de l'eau issue des fluides humains, c'est-à-dire, pour être clair, des urines et d'éjections humaines, pour les convertir et récupérer l'eau. Et en fait, ils n'étaient pas du tout au fait de ce qu'on faisait en Europe, de ce côté-là. Donc ça, ils ont été très intéressés. Et puis, l'idée de collaboration qui s'est dégagée, c'est qu'on puisse lier les deux sujets ensemble. C'est-à-dire que quand il y a le traitement de l'eau, le traitement des efflux, on va prendre par exemple les urines, qui se fait aujourd'hui sur l'ISS, mais avec des produits chimiques. Et la volonté de la NASA, c'est d'utiliser que des produits biologiques. Donc on est dans ce concept, comme nous sur Terre, d'utiliser des produits biologiques pour recycler l'eau. Quand ils enlèvent les sels des urines, par exemple, pour refaire une eau qui est potable, ils ont quand même une eau qui est fortement minéralisée. Et cette eau-là, ben, c'est cette eau qui peut intégrer le système de production de poissons, alors pour le coup, typé marin. Si c'est des, voilà, ça sera des poissons qui pourront faire de l'osmorégulation, quoi.
Donc ils étaient intéressés, ouais. C'est...
Oui. Oui, j'ai eu des messages d'ailleurs dans la semaine suite à ma soutenance de thèse où ils m'ont dit que voilà, ils souhaitaient avoir une version pour essayer de le mettre dans la feuille de route de la NASA, quoi.
Un grand merci à vous pour d'être venu dans l'émission, c'est vraiment passionnant.
Merci.
À bientôt, on espère vous accueillir à nouveau. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. Pardon. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.